France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Le nom de Fariba Adelra, anthropologue, spécialiste de l'islam chiite et directrice de recherche à la Fondation Nationale des Sciences Politiques, a surgi hier dans l'actualité, brusquement. La chercheuse franco-iranienne a disparu alors qu'elle se trouvait à Téhéran, probablement emprisonnée depuis environ 3 semaines dans un quartier de la prison d'Evin, au nord de Téhéran, bien qu'aucune information officielle ne soit venue pour l'instant confirmer ces points. À la grande inquiétude et incompréhension des amis et collègues de Fariba Adelra. Nous recevons ce matin pour faire un point sur cette situation, qui sera l'occasion aussi de faire un point sur la situation politique et diplomatique de l'Iran. Ahmad Salamatian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien parlementaire et ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères dans le premier gouvernement post-révolution islamique. Vous vivez aujourd'hui en France et à vos côtés, Armin Arefi, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au Point, c'est vous qui, le premier hier en France, avez publié l'info de la disparition de Fariba Adelra. Est-ce qu'on en sait un peu plus depuis hier sur sa situation précise? Est-ce qu'elle est à Evin? Est-ce qu'elle est maintenue au secret?
Alors, on a eu des informations via son ami et chercheur Jean-François Bayard, qui s'est exprimé à l'AFP, qui a déclaré qu'elle était bien emprisonnée donc dans la prison d'Evin, qui a une prison connue justement pour ses détenus politiques. Elle aurait bénéficié de la visite de sa famille, elle ne serait pas maltraitée. On n'en sait pas davantage, d'autant que, comme l'a rappelé le Quai d'Orsay en confirmant l'information hier à midi, la France n'a pour l'instant pas eu d'accès consulaire à sa ressortissante, et c'est bien là le problème. L'Iran ne reconnaissant pas la double nationalité, généralement les chancelleries occidentales n'ont pas grand chose, n'ont pas leur mot à dire dans ces histoires-là. Et c'est d'ailleurs sur ce point-là que certaines franges du pouvoir iranien jouent. Clairement.
On y reviendra là-dessus. Hein. Jean-François Bayard, qui est professeur à l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement, il est effectivement proche de Fariba Adelra. Il s'inquiète quand même pour sa santé. Est-ce qu'elle est maintenue à l'isolement? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe régulièrement avec des prisonniers qu'on peut considérer comme politiques?
Alors effectivement, si elle est bien ce qu'affirment plusieurs sites iraniens des droits de l'homme détenus dans la branche 2A de la prison d'Evin, celle contrôlée exclusivement par les gardiens de la Révolution, il est à craindre qu'elle soit, comme l'affirment ces sites, détenue à l'isolement. C'est une branche qui, contrairement à la branche 601, est beaucoup plus et donc sous le contrôle des gardiens de la Révolution, les Pastarans, et qui échappe au contrôle des renseignements iraniens et même du gouvernement iranien. Donc c'est, je dirais, la plus sombre, entre guillemets, branche de la prison d'Evin. Maintenant, on a déjà vu par le passé que les gardiens de la Révolution, quand il s'agissait de détenus binationaux, et donc qui avaient un certain coût politique,
une valeur,
les traités,
en monnaie d'échange.
Enfin, si on peut parler ainsi, et je ne pense pas qu'il soit souhaitable qu'on en parle ainsi, faisait quand même attention à ce qu'il ne soit pas maltraité, ou en tout cas pas traité comme d'autres prisonniers. C'est dans cette branche, par exemple, que figurait par le passé Jason Rezaian, qui était donc l'ancien correspondant du Washington Post à Téhéran, qui avait été retenu de nombreux jours, et servi d'ailleurs de monnaie d'échange dans la lutte entre l'Iran et les États-Unis après la signature de la sur le nucléaire.
Il y a aussi des cas dramatiques, hein, mais on y reviendra dans le journal de 8 heures, notamment. La France, effectivement, vous l'avez dit, Armin Arefi a fait savoir qu'elle essayait de fournir une protection consulaire. Emmanuel Macron a réagi très vite hier en demandant des clarifications à Hassan Rouhani. Pas de réponse pour l'instant. Son émissaire, Emmanuel Bonne, fait des allers-retours à Téhéran. Quelles sont ses marges de manœuvre?
Oui, le problème, c'est que les gardes de la Révolution, c'est une sorte, c'est un pouvoir, un État,
dans l'État.
Et le président de la République, enfin, ils n'ont pas à répondre au président de la République. Il répond directement aux ordres du guide suprême, l'Ayatollah Khamenei, le véritable chef de l'État en Iran. Et c'est bien là le problème. Il y a eu quand même, vous parliez tout à l'heure de démenti ou de confirmation, il y a quand même une semi-confirmation à Téhéran qui est venue du porte-parole du gouvernement, Ali Rabihi, qui, et c'est très intéressant, a annoncé donc aux médias iraniens officiels qu'il avait entendu parler de cette information, mais qu'il ne savait pas qui était derrière.
Et il peut pas confirmer.
Cela montre bien que ce n'est pas une arrestation qui a été le fait de la police, du ministère des renseignements qui officiellement dépend, des services de renseignement qui officiellement dépend du ministère des renseignements. Donc ça indique bien que ce serait le cas des gardiens de la Révolution qui agissent d'une certaine manière pour leur propre compte et répondent directement au guide suprême.
Ahmad Salamatian, la France ne peut rien faire au niveau diplomatique là sur cette affaire très précise de Fariba Adelra. On est dans un coin sombre.
Je ne peux pas dire qu'elle ne peut rien faire. Mais il y a un problème que je veux souligner. Fariba Adelra, où elle se trouve aujourd'hui, c'est beaucoup plus par rapport à sa qualité de chercheuse, son audace de chercheuse, son courage de se lancer dans les faits. Et ça, ça dérange avant tout les responsables de la section de prison d'Evine où Elliot Détonou, c'est-à-dire les gardiens de la révolution. Et ça, c'est un enjeu politique de la politique intérieure iranienne aussi. C'est pourquoi M. Rabihi, le porte-parole du gouvernement,
qui était cité par Armin Arati,
est un expert. Il a traversé les différents services iraniens. C'est comme connaisseur qu'il fait l'esquive en disant « je sais pas qui est-ce qu'il a pris, où est-ce qu'il est ». Et là, ça montre combien une chercheuse, une femme qui a l'amour de la recherche peut devenir, à un moment donné, dans l'engrenage des relations internes et internationales, victime. Là-dessous, je dis que la politique française, la politique du président de la République actuelle et l'habileté d'émissaire de président en Iran, qui est un fin connaisseur de l'Iran, peut avoir des effets et peut même jouer un rôle pour le traitement de Fariba Adelra.
L'activité scientifique est souvent gênée en Iran. Parlons de la recherche de Fariba Adelra un instant. Elle a analysé l'anthropologie sociale et politique de l'Iran post-révolutionnaire. Elle est spécialiste, on le disait, de l'islam chiite, qui l'a amené à travailler sur des sujets plus larges, comme la famille, les milieux d'affaires, la jeunesse et les femmes, notamment. Ça, ce sont des sujets sensibles, Ahmad Salamatian ?
Oui,
pour le pouvoir.
Le regard de Fariba l'a sensibilisé. Voyez-vous, si je regarde le Fariba depuis 1991, il a fait le premier livre, c'était La révolution sous le voile. Elle ne s'enfermait pas dans les clichés. Elle posait la question, est-ce que la révolution a libéré le corps de la femme, les bras et les jambes de la femme avec le petit foulard qui manifeste dans les manifestations? Alors ça, c'était quelque chose de fondamental. Après, dans tous ses ouvrages, elle a un regard qui, par anthropologie sociale, s'appuie sur la société iranienne et ses transformations. Et elle est arrivée à cette découverte énorme qu'aujourd'hui, le fait géopolitique le plus important de Proche-Orient, c'est cette classe moyenne iranienne qui évolue malgré tout. Et là,
malgré les gardiens de la révolution, malgré le pouvoir, voilà, malgré le guide suprême.
C'est un danger de dire quelqu'un qui touche les choses les plus sensibles pour les pouvoirs d'un côté ou de l'autre.
On va l'écouter, Fariba Adelra, si vous le voulez bien. C'était au micro de France Culture en février dernier.
Vous avez parlé d'assouplissement, et c'est vraiment très intéressant, l'assouplissement de regard des services d'ordre un peu dans la société iranienne à l'égard des femmes. Il faut savoir que dans toutes ces familles aujourd'hui, les gardiens de la révolution, c'est qui, ou l'agent de l'ordre, c'est qui, ils ont tous des enfants qui ont des pratiques plus ou moins proches à ça. Je veux dire que les pratiques ont changé énormément, et ça dépend dans quelle ville vous êtes. Et donc ces gens-là, ils ne veulent pas aller à l'encontre de la pratique de leur famille, premièrement. Deuxièmement, finalement, s'accrocher à des petites jeunes à cause de cette petite mèche, puisque Almin l'a utilisé, ça rapporte pas gros. S'occuper finalement de la sexualité des femmes, ça rapporte pas gros. Mais pour ces services hors de s'occuper de la question de drogue, sécurité des frontières, ça, ouais, ça rapporte quelque chose. Je veux dire, c'est pas très honorifique pour ces services d'ordre de s'accrocher tous les jours à des femmes.
Fariba Adelra, c'était le 6 février dernier au micro de Florian Delorme dans l'émission Culture Monde sur France Culture. Vous y étiez d'ailleurs à ce plateau, Armin Arefi. Dire ça aujourd'hui en Iran, c'est compliqué, Ahmad Salamatian ?
C'est dangereux. On touche les matériaux dangereux. La crainte la plus importante de pouvoir iranien, c'est cette société, justement. Et permettez-moi de vous dire que cette société est prise en otage maintenant dans le conflit géopolitique. C'est pour ça que, comme un artificier qui est en train de démonter une bombe pleine, prête à s'exploser, elle est juste au niveau de l'affrontement des forces tectoniques de la situation. Ouais. Et elle n'est pas espion, elle est une chercheuse, le plus fidèle, mais elle est dans un endroit et sur un problème qui est explosif.
Elle avait dit à l'Express en 2009 que l'Iran ne connaît pas l'autonomie de la recherche. Le chercheur y est considéré comme un agent 007, Armin Arefi.
Oui, bah, c'est le problème. Moi, je me souviens effectivement de cette émission. La grande qualité de Fariba, au-delà de ses travaux qui étaient extrêmement neutres et d'un professionnalisme qui n'était plus à démontrer, c'est qu'elle pouvait continuer à aller en Iran. Elle continuait à faire de nombreux allers-retours entre Paris, Téhéran et la ville de sainte de Rome, où elle avait de nombreux contacts académique sur place, et je pense que c'est ça qui gênait les autorités. Aujourd'hui, on est confronté, en raison de l'aggravation de la situation géopolitique, à une répression accrue à l'intérieur, et là-dessus, il est clair que les binationaux, comme Fariba, comme moi-même et plein d'autres, chercheurs et journalistes, nous sommes face à cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, en sachant que si jamais nous sommes arrêtés, nous sommes considérés comme iraniens. Donc il y a une facilité pour se rendre en Iran, mais derrière, s'il y a un problème, on est dans une situation d'autant plus difficile. Et je pense que c'est ça qui dérangeait les autorités, justement le fait d'avoir cette possibilité de voyager facilement entre les deux pays, malgré les contraintes, et surtout les nombreux contacts. Plus on connaît mieux, mieux on connaît l'Iran, plus on est suspect aux yeux des autorités. Et c'est ça le vrai problème. Alors qu'encore une fois, les travaux de Fariba sont d'une neutralité et d'une expertise
politique, en tout cas,
à démontrer. Et les sujets sur lesquels elle travaille, ce sont des sujets sur lesquels beaucoup de gens, chercheurs et journalistes, travaillent.
Vous souscrivez alors, Armin Arefi, à ce que vient de dire Armad Salamatian, la recherche, la science sociale notamment, est prise en otage dans un conflit qui la dépasse, un conflit géopolitique,
bien évidemment.
Des grosses tensions.
Maintenant, aujourd'hui, dans ce climat actuel, cette pression orchestrée et exercée par Trump depuis qu'il est sorti unilatéralement de l'accord sur le nucléaire en mai donc 2018, il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, on assiste à une répercussion sur la société iranienne, et cela nourrit la paranoïa, en fait, des franges les plus conservatrices qui considèrent qui considèrent comme espion ou suspecte pour le moins toute personne qui voyage entre les deux pays. Et c'est ça la problématique. C'est-à-dire que l'accord sur le nucléaire iranien avait permis aux journalistes de revenir en Iran, avec l'arrivée aussi de Rouhani, aux chercheurs pour certains d'entre eux, de pouvoir continuer à effectuer des travaux de recherche en Iran. Il est clair qu'aujourd'hui, les gardiens se servent de ce climat de tension pour réprimer davantage à l'intérieur tout travail de recherche ou journalistique, et pour également jouer une sorte de poker menteur avec les Américains, et se servir justement de gens complètement innocents comme une sorte de monnaie d'échange.
On va y revenir sur cet aspect contre-productif des sanctions qui se surajoutent aux sanctions. Les recherches sur l'environnement notamment sont compliquées en ce moment, Armad Salamatian.
D'une manière générale, les recherches de terrain qui sont de domaine de l'académique en même temps que le renseignement, c'est normal. Mais l'académique a une certaine forme d'indépendance et d'autonomie que les régimes autoritaires, et même de temps en temps, les autres ne peuvent pas distinguer.
Fariba, il y a une surface politique, évidemment.
Fariba Adelfra fait de recherche académique. Que ça soit telle personne dans tel endroit qui profite de cette recherche académique n'a rien à voir avec la qualité de son travail. À ce moment-là, ce sont seulement les petites fenêtres de renseignement des autres qui sont tendance à dire que c'est un espion. C'est la même chose qui est passée pour plusieurs dizaines de militants de l'environnement en Iran, du fait même qu'ils faisaient des études de terrain, les détériorations de l'environnement. Et ils sont considérés tout de suite, avec les uns et les autres, comme l'espion. Ils sont arrivés...
Là, il y a un enjeu aussi qui est politique, parce que l'Iran, c'est aussi une puissance pétrolière, évidemment, gazière aussi.
Oui,
On peut aussi le considérer sous cet angle-là.
Mais c'est un pays qui souffre aujourd'hui d'une catastrophe climatique aussi, d'une catastrophe environnementale. Et dire que, voilà, les espèces sont en train de disparaître en Iran, ça, c'est le travail de celui qui fait des recherches dans le climat. Il n'est pas un espion. S'il prend les telles caméras pour regarder la nuit le déplacement des panthères, c'est pas pour essayer d'avoir la radiation nucléaire ou trouver les pistes nucléaires. Les services de renseignement, dans une situation de tension, ils ont tendance de mettre tout ça, toute information dans la situation de tension devient comme si c'était une information secrète. Et à ce moment-là, je dis que non, la recherche en sciences humaines, surtout en Iran, c'est un domaine de recherche académique avec les exigences de ça. Les chercheurs et les chercheuses ne sont pas l'espion d'un côté ou de l'autre.
Ce climat répressif, comme le disait Armin Arefi, est à mettre sur le compte, notamment des tensions liées au dossier du nucléaire iranien, la pression que met Trump, qui est sorti unilatéralement de l'accord de 2015 sur le nucléaire. À votre avis, c'est très directement lié? Il y a eu une montée depuis la sortie l'an dernier de cet accord. Et puis il y a aussi ces conséquences économiques, évidemment, qui se font sentir.
Depuis, étant donné que cette politique américaine a commencé avec la gestuelle, avec des gesticulations, avec la guerre psychologique. La guerre psychologique qui essaye de créer des angoisses d'un côté ou de l'autre, ça permet justement à de ces systèmes et de ces appareils sécuritaires qui vivent dans cette forme de l'obsession d'en profiter. Je dis oui. Aujourd'hui, les tergiversations américaines du matin jusqu'à soir, la politique de tweet de tous les matins, c'est une aubaine pour les services de renseignement iraniens pour faire la pression sur qui ils veulent.
Et pour les gardiens de la révolution, c'est ce que vous disiez, Armin Arefi, c'est
oui,
totalement contre-productif.
Au-delà justement du terme de tension, de pression, c'est un véritable blocus aujourd'hui auquel est soumis l'Iran, qui ne peut plus exporter sa principale manne financière, à savoir le pétrole, 40% du budget de l'État. Et voilà, aujourd'hui, on a quand même, il faut le rappeler, sur uniquement la crise du nucléaire, un État, donc l'Iran, qui a respecté l'accord qu'il avait signé, en réduisant considérablement, en tout cas jusqu'à il y a quelques jours, ses capacités nucléaires. Derrière, on a unilatéralement un président américain qui est sorti, qui a décrété de sables sanctions draconiennes contre le système bancaire iranien, contre le pétrole iranien, qui a placé les gardiens de la révolution, dont il faut oublier, même s'ils ont un caractère extrêmement répressif à l'intérieur du pays, c'est quand même une des principales forces qui a lutté contre Daesh en Irak. Donc aujourd'hui, un Iran qui est complètement soumis à un véritable blocus. Et là-dessus, effectivement, l'Iran, aujourd'hui, la voix de la modération en Iran, qui est incarnée par le président Rouhani, par son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, et plus globalement par le gouvernement iranien, c'est complètement fait avoir et a perdu énormément de pouvoir vis-à-vis des franges les plus conservatrices, dont les gardiens, dont les proches du guide,
voilà, qui profitent.
Au départ l'avaient dit, ne faites pas confiance aux États-Unis avant la signature de l'accord, ne faites pas confiance.
Qui profitent de la situation et qui peuvent effectivement se prévaloir des mises en garde qu'ils avaient formulées à l'époque de
oui,
la négociation de ce traité.
Clairement, les réformateurs ont joué la carte de la diplomatie. La diplomatie a échoué, on le voit encore aujourd'hui, parce que les sanctions américaines extraterritoriales paralysent tout le monde et empêchent toute entreprise d'investir, étrangère d'investir en Iran. Et de fait, aujourd'hui, le régime, pour assurer sa survie, n'a d'autre choix que d'aller vers une militarisation, si ce n'est même la bombe. Donc clairement, on a un Trump qui a renforcé l'aile la plus dure au pouvoir iranien et lui a permis de réprimer d'autant plus à l'intérieur du pays.
Et puis les gardiens de la révolution, c'est aussi une force économique, Armad Salamatian. Est-ce qu'il peut y avoir un rapprochement franc entre les Pasdaran et le pouvoir et le gouvernement Rouhani, qui lui-même, par ailleurs, se durcit ces derniers temps?
Non. Par essence même, la présidence de la République, directement ou indirectement, dépend de suffrage et d'une certaine image qu'il se fait face à l'opinion, avec les gardiens qui se basent totalement sur un affrontement militaire, ont deux stratégies différentes. Je dirais que les gardiens de la révolution, là-dessous, ils jouent le raidissement de la situation, parce qu'ils ont cette impression qu'en fin de compte, au bout de chemin, ils seront l'interlocuteur le plus valable accepté par les Américains. Et c'est cet enjeu qu'en aggravant la crise, on va arriver à dire que Rouhani, toute solution politique, toute recherche n'est pas efficace, et que, qui sait, un jour, les Petraus et les Soleimani, autour d'une table, peuvent mieux et d'une manière plus décidée partager le gâteau. Et c'est ça, au fond de pensée des gardiens, et au fond de pensée des politiques, et au fond de pensée de la Maison Blanche, permettez-moi. Il y a une certaine forme de consensus de dire que cette région du monde ne se traite que par les raïs en uniforme, et que les politiques n'ont rien à dire, les sociétés n'ont rien à dire là-dedans, et dans ce jeu-là, je dis, aujourd'hui, ils se complètent.
C'est perdant-perdant pour les modérés.
Exactement.
Armin Arefi.
Oui, clairement. Bon, il faut quand même pas oublier que à la Maison Blanche aujourd'hui, on a quand même deux personnes. Parce qu'on a un Trump qui veut, d'après ce qu'il dit, un grand deal, donc mettre les Iraniens à genoux. Donc déjà, c'est pour les forcer à accepter un deal global. C'est très mal connaître les Iraniens. D'autant qu'aujourd'hui, le suprême a dit qu'il était hors de question de négocier. Maintenant, donc il ne faut pas oublier, donc comme je le disais, qu'il y a deux personnes qui, elles, avancent savamment. Mike Pompeo, le secrétaire d'État, et John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, l'un des principaux artisans de la guerre contre l'Irak. Il ne faut pas l'oublier. Qui avancent leurs pions et qui nous amènent de plus en plus vers une confrontation inévitable. Parce que s'il n'y a pas de diplomatie comme aujourd'hui, ça semble écarté, on va vers une confrontation. Et tout ce qui est les incidents qui sont attribués par les Américains à l'Iran dans le Golfe, l'arraisonnement d'un navire pétrolier iranien qui se dirigeait vraisemblablement vers la Syrie, près de Gibraltar, tout ça sont des signes qui sont très très inquiétants, de sorte que au bout d'un moment, Donald Trump, qui déjà à une reprise a fait une volte-face, c'est-à-dire qu'a décidé à la dernière minute de ne pas frapper l'Iran, aujourd'hui se retrouve dans une situation où il serait obligé de répondre, et ce qui provoquerait un engrenage incontrôlable et une guerre régionale, si ce n'est plus.
On placera la suite de notre discussion sous un angle géopolitique. Armin Arefi, Armad Salamatian, vous restez évidemment avec nous. Nous poursuivons cette discussion juste après le journal. 8h16, merci d'écouter les matins d'été de France Culture et bonjour Alexis Broca.
Bonjour.
Rédacteur en chef adjoint du nouveau magazine littéraire. Vous publiez votre double numéro d'été en partenariat avec France Culture, avec notamment un dossier que vous avez personnellement coordonné, Alexis Broca, sur les grands maîtres de l'horreur et sur la littérature d'épouvante, de plus en plus reconnue comme un genre qui compte.
Oui, c'est vrai. Alors, ça fait un certain temps qu'on fomentait ce dossier, mais nous avons attendu un peu que cette littérature soit en quelque sorte consacrée. Là, il y a eu une pléiade dédiée à la figure de Dracula qui est parue. Il y a eu l'immense biographie de Howard Phillips Lovecraft qui a été traduite. Bref, la porte nous paraissait entrouverte pour entrer dans cette littérature de cauchemar.
Nos temps cartésiens, écrivez-vous, sont aussi ceux de la perspective d'une apocalypse imminente.
En effet.
Que Cormac McCarthy, finalement, n'a fait que placer judicieusement dans notre horizon avec La Route.
Oui, c'est très intéressant d'ailleurs de lire à La Route et de retrouver des figures du roman d'épouvante. Je pense à cette réplique de la femme du narrateur de La Route, que le narrateur lui dit « Nous sommes des survivants » et elle répond « Non ». Nous sommes des morts-vivants dans un film d'horreur. Et en effet, cette référence à l'horreur dans un livre de science-fiction, mais de prospective réaliste, est tout à fait intéressante. Elle montre bien que ces motifs sont entrés dans l'imaginaire commun.
Alors, vous avez cité Lovecraft, il y a aussi Stephen King qui
voilà, il y a aussi Stephen King, pour lequel j'ai une grande admiration. Stephen King, dans ma jeunesse, il était considéré comme un tâcheron. Aujourd'hui, il fait l'objet de grandes recensions dans le New York Times. Et en effet, c'est un écrivain passionnant. À la fois pour sa mythologie fantastique, mais aussi pour son côté réaliste et ses descriptions des petites villes américaines, pour lesquelles, à mon avis, il est un maître inégalé.
En couverture du numéro d'été du nouveau magazine littéraire également, les destins croisés des grands couples littéraires ou comment le hasard de la rencontre devient opportunité fertile.
Oui.
Quand on s'appelle Herman Melville, par exemple.
Exactement. Ça, c'est une histoire extraordinaire. En 1849-1850, Herman Melville travaille à un récit anodin qui reprendrait son expérience sur les baleiniers. Et il rencontre Nathaniel Hawthorne, qui est son exact contraire. Melville est plein de vie, il est exubérant. Hawthorne, lui, est quelqu'un de distant. Et Melville lit Hawthorne, il lit les nouvelles d'Hawthorne, il y trouve une noirceur shakespearienne. Il vient de découvrir Shakespeare à cette époque-là, Melville. Et alors il va...
Et il n'a pas fini Moby Dick.
Et il n'a pas fini Moby Dick, et Moby Dick va être réécrit. Et en fait, cette lecture d'Hawthorne et de Shakespeare va donner à Moby Dick le cœur noir de son intrigue, qui est la figure d'Acab et sa poursuite infinie à la suite du cachalot.
Merci Alexis Broca. Les couples littéraires et les destins croisés en une du nouveau magazine littéraire qui sort son double numéro d'été en ce moment avec Marilyn Monroe et Arthur Miller en couverture, en partenariat avec France Culture.
Merci.
France Culture, les matins d'été. Benoît Bouscarel.
La disparition de Fariba Adelra, on y revient, chercheuse franco-iranienne depuis plusieurs semaines. Elle a disparu, probablement arrêtée par les gardiens de la Révolution. Nous recevons ce matin pour en parler Armad Salamatian, ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères iranien, Armin Arefi, journaliste au Point. Il faut voir derrière cette arrestation probablement une tentative de pression, notamment sur la France, qui essaye de faire tout ce qu'elle peut en matière de médiation diplomatique entre l'Iran et les États-Unis. On l'a dit, la situation régionale est très très préoccupante. On l'a dit aussi dans la première partie de cet entretien. Mais avant de parler de géopolitique, à l'intérieur même de l'Iran, Armin Arefi, Ahmad Salamatian, comment vous sentez l'opinion publique se positionner vis-à-vis des gardiens de la révolution qui, on le disait tout à l'heure, prennent de l'importance et prennent aussi de la place au niveau économique?
Vous savez, les gardiens de la révolution, pour la population iranienne, c'est à la fois un danger, et à la fois dans un moment d'insécurité permanente, un refuge. Je suis désolé. Le vrai problème, c'est que la classe moyenne iranienne, qui dans une conflagration concernant l'Iran serait la première perdante, est partagée d'une certaine manière entre la réaction contre les excès des gardiens de la révolution sur ses libertés, et en même temps, la sécurité devient la valeur numéro un, et les gardiens de la révolution en profitent. C'est dans cette ambiguïté que les gardiens de la révolution investissent dans la tension, parce qu'ils savent très bien que de cette manière-là, d'une certaine manière, ils vont mater la classe moyenne iranienne aussi. Donc, là, la sécurité intérieure géopolitique, dans l'ensemble, a un effet sur un complexe géopolitique.
La classe moyenne sur la ligne de crête, Armin Arefi, vous diriez ça aussi?
Oui, clairement, aujourd'hui, c'est elle qui est la première visée par les sanctions américaines. C'est elle qui a eu son pouvoir d'achat baissé de moitié. C'est elle qui est victime, justement, de la chute terrible de la monnaie iranienne qui a perdu 70% de sa valeur depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire. Et c'est elle, surtout, qui a été le moteur de toutes les révoltes en Iran depuis le début du siècle dernier. Donc clairement, si les Américains font le pari de sanctionner l'Iran pour pousser la population à se rebeller, à renverser le régime, elle a tort. Mmh. Elle a tort, elle va se tromper, elle va droit dans le mur. Mmh. Clairement, aujourd'hui, les Iraniens, pour ceux qui peuvent, ils quittent le pays, parce que la situation économique est très très délicate, et celle des sécurités, des libertés individuelles, pareil. Pour le reste, on essaie de survivre, on essaie de joindre les deux bouts, comme depuis, ça ne date pas d'hier, mais aujourd'hui c'est encore plus terrible. Maintenant, pour revenir justement sur la situation des gardiens de la révolution, les gardiens contrôlant tout ce qui entre et tout ce qui sort de l'Iran, les gardiens ayant investi l'appareil l'économie iranienne et l'appareil militaro-industriel, ils sont gagnants dans tous les cas. Parlons, si l'Iran se ferme, ils sont gagnants. Si l'Iran s'ouvre, comme c'était le cas au moment de l'accord sur le nucléaire, ils sont gagnants, car c'est eux qui contrôlent les entrées et les sorties de toutes les marchandises vers l'Iran.
Parlons notamment de Ratam Al-Anbiya, qui est ce grand conglomérat aux mains aussi des gardiens de la révolution, oui. Pasdaran, Arman Salamatian.
Oui.
Il joue un rôle majeur, il prend des places aussi, les places libérées par les entreprises européennes, dans l'automobile notamment, Renault et Peugeot vont laisser des espaces. Et derrière, évident. Il y a les gardiens de la révolution aussi.
C'est évident que quand la tension et les sanctions ferment la porte aux ouvertures de l'Iran vers le monde extérieur, il ouvre les autobans pour les gardiens de la révolution, pour dire que voilà, nous sommes là, et les gardiens de la révolution, ils ont une particularité. Ils ne sont pas capables de gérer, de faire la gestion de l'ouverture vers le monde occidental. Mais ils sont très capables de prendre leur rançon, même sur la situation économique. Et cette manière-là, c'est pourquoi je suis convaincu que toute ouverture économique de l'Iran vers le monde extérieur, pour les gardiens de la révolution, est senti comme une menace de leur intérêt propre.
Vous parlez justement de Ratam Al-Anbiya. Aujourd'hui, on apprend que Ratam Al-Anbiya va investir les gisements pétroliers et gaziers de South Pars en Iran, que Total a quitté en raison des sanctions extraterritoriales, en tout cas de la menace de sanctions. C'est quand même hallucinant. Maintenant, j'aimerais revenir sur justement la position de la population iranienne. Moi, j'ai été en Iran jusque la fin jusqu'à fin 2018. Aujourd'hui, on n'a plus, en tout cas moi, je n'ai pas eu d'autorisation pour retourner en tant que journaliste sur place. Maintenant, la situation, en tout cas l'opinion de la population iranienne est très ambivalente concernant la situation actuelle. Car certes, le régime n'est pas parti pour tomber demain. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu des expériences douloureuses, celles de la révolution 79, où les Iraniens ont manifesté contre le Shah. Ils ont eu pire. Ensuite, l'année d'après,
la guerre en Irak soutenue, donc Saddam Hussein soutenu par l'ensemble de l'Occident, donc la guerre, ils connaissent. Aujourd'hui, ils n'aspirent, et ils n'aspiraient qu'un peu de stabilité. C'était ce qui était censé leur garantir l'accord sur le nucléaire de 2015. Mais quand on parle, quand on discute justement, et c'est ça le plus important aujourd'hui avec les Iraniens, ils en volent surtout aux mollahs. C'est les mollahs qui les accusent de la situation actuelle en Iran, qui d'après eux, et certes, Trump a provoqué l'effondrement de la monnaie, mais Trump, ce qu'il dit, et ce qui est intéressant, c'est que les Iraniens affirment que Trump, c'est, il pense avant tout aux Américains, et que les mollahs seraient bien inspirés de penser aux Iraniens. Sauf qu'aujourd'hui, avec, encore une fois, la militarisation, l'accentuation, en tout cas, de la militarisation de l'Iran et le renforcement de son appareil sécuritaire, on ne va pas du tout, justement, vers un apaisement, une libéralisation du pays, bien au contraire.
Bon, la question maintenant, alors du coup, est-ce qu'on peut sauver cet accord sur le nucléaire de 2015, dont les États-Unis sont sortis unilatéralement, que l'Europe essaye tant bien que mal et maladroitement?
Moi, je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'on peut se passer du dollar? Et c'est aujourd'hui la principale arme des États-Unis, c'est-à-dire que c'est avec le dollar qu'ils ont poussé toutes les entreprises françaises hors d'Iran. Moi d'ailleurs, récemment j'ai discuté avec un diplomate français qui nous disait, mais écoutez, nous on a créé un système qui s'appelle Instex, une chambre de compensation
qui pour contourner,
mais il ne marche pas. Pourquoi? Parce que les entreprises françaises n'ont pas attendu. Certes, Macron et le président de la République Emmanuel Macron ou Bruno Le Maire affirment non, il faut rester en Iran, mais du jour au lendemain, elles ont quitté, sauf qui peut. Et aujourd'hui, les Français ne sont même pas dans la possibilité d'ouvrir une ligne de crédit pour négocier ne serait-ce que l'envoi de médicaments en Iran, alors que ça ne tombe pas sous le coup des sanctions. Et même les sanctions aujourd'hui sur le pétrole, ce sont des sanctions américaines, sauf que tout le monde a intégré qu'aujourd'hui, il n'était pas possible de commercer, de vendre du pétrole, en tout cas d'acheter du pétrole iranien.
L'Europe a renoncé à imposer de nouvelles sanctions sur l'Iran. Armand Salamatian, sur le rôle de l'Union européenne par rapport à cette crise.
Voyez-vous, vous dites, est-ce qu'on peut sauver l'accord nucléaire ou non? Je dis, la question ne se pose pas. On ne peut pas ne pas sauver l'accord nucléaire sans rentrer dans l'enfer. L'agissement de M. Trump en quittant l'accord nucléaire pour lequel pendant 12 ans l'ensemble de la communauté internationale et ses arts diplomatiques étaient aboutis, c'était déjà ouvrir les portes de l'enfer. Et là, il faut que tout le monde en prenne conscience. Si l'Europe a compris que le destin de l'Europe se décide en partie dans la survie de la diplomatie et l'accord nucléaire dans le Proche-Orient ou dans un affrontement militaire, à ce moment-là, je crois que l'Europe combattra pour sa survie d'une certaine manière. Et à ce moment-là, je dis, l'Europe sera prête à mouiller la chemise. Et s'il mouille la chemise, la déclaration des trois puissances européennes, il y a 48 heures, concernant les problèmes de la sortie de l'accord, pour la première fois, il faisait une certaine forme de légalité, de la responsabilité entre les agissements de pouvoir iranien et les agissements de la Maison Blanche. C'est un bon signe. Mais est-ce que l'Europe a suffisamment de moyens? Moi, je crois qu'encore vit. Encore vit, parce que dans le monde tectonique qui change, le monde émergent, l'Europe encore, avec son marché, s'il a l'unité politique, il peut compter.
Ouais, le nain diplomatique qu'est l'Europe, Armin Arefi, peut faire quelque chose? Ce sera le.
En tout cas, effectivement, la France, l'Europe, parce qu'il faut rappeler que c'est un accord qui a été signé également par la Russie, la Chine et E3, donc l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. La France est engagée dans une médiation. La France mouille la chemise. Le président a envoyé à Téhéran son conseiller diplomatique, qui est un fin connaisseur du Moyen-Orient, Emmanuel Bonne. Le problème, c'est que au moment même où Emmanuel Bonne était dans le bureau du président Hassan Rouhani, il y a un nouveau tweet de Trump qui annonce de nouvelles sanctions, alors que la France, justement, s'investit pour essayer, et c'est ça la clé, de négocier des exemptions sur les ventes de pétrole iranien, donc la possibilité pour l'Iran, à nouveau, de vendre son pétrole à certains pays. On parle de la Chine, on parle de l'Inde, du Japon. Donc il y a une volonté forte de la France. On l'a vu justement encore hier, les Européens refusent parce que l'Iran, c'est la nouvelle stratégie iranienne depuis un mois, l'Iran a décidé de violer quelques-uns de ses engagements sur le nucléaire pour pousser les Européens à réagir. Ça a l'air de fonctionner. Aujourd'hui, les Européens essaient de se bouger pour trouver une solution. Maintenant, le problème est la question des moyens, du levier de pression dont dispose l'Europe. Et aujourd'hui, sans geste de la part des États-Unis, les Européens, à mon sens, n'y arriveront pas. Et c'est pas pour l'instant le chemin qu'on a l'air de prendre et la volonté affichée par le président américain qui veut mettre ce régime à genoux.
La suite au prochain tweet, si on vous comprend bien. Merci à tous les deux, Armin Arefi, auteur d'un printemps à Téhéran, la vraie vie en République islamique, publié chez Plomb dernièrement. Merci aussi à vous, Armin Salamatian. À suivre.
Armad Salamatian.
Armad Salamatian.